Chanteur, Frédéric Pagès avance sur cette lisière entre l'écrit et le corps, entre les signes et le souffle, dans la danse libre des mots. Il aime les textes qui recèlent en eux-mêmes une rythmique, une musicalité et qui prennent un sens nouveau quand ils sont joués, au sens musical, à la voix. La plupart de ses enregistrements, entre chansons atypiques et textes littéraires, dont certains de Hugo et Udi Berti, mis en son, sont disponibles sur les plateformes d'écoute. Il a publié dernièrement « Danse libre », édition Les Grands Singes, un recueil poétique, et Loin de Montmartre, un récit bilingue, en français et en portugais, édité au Brésil, où il réside une partie de l'année depuis plus de 40 ans. Il a écrit également reportages et critiques littéraires et musicales pour Télérama, Les Inrecuptibles, Lire, Les Cahiers Jaco Di Berti, Continent Sandra, Europe, Jazz Magazine, ainsi que dans la presse brésilienne.
Oui, ben, je crois que effectivement, mon intervention va être très complémentaire de la vôtre et de celles qui ont des précédentes. Alors, on commence par... je vais mettre moi aussi le chronomètre parce que j'ai tendance terrible
à dépasser.
À dépasser.
Tu fais signe.
Oui, tu fais signe. Hein. oui, alors on va recommencer. Donc, Victor Hugo aimait le jazz. Voilà, alors bon, ce matin, Agnès nous en a fait lecture, hein, donc, qui était un texte, pour ceux qui n'étaient pas là, donc, que Udi Berti avait écrit, d'ailleurs à la main, un manuscrit, hein, parlait de la matérialité, au dos d'un 45 tours, donc de Claude Nougaro. Alors Victor Hugo aimait le jazz, peut-être, qui sait, mais il ne le connaissait pas, et quand je dis Victor Hugo, je veux dire un poète épris de poésie efficace et de rimes dans le mille. Alors, et après il parle de Claude Nougaro. Alors voilà, c'est ce genre de formule choc que Udi Berti affectionne. C'est-à-dire deux composantes hein, qui rentrent en choc, l'érudit et le populaire, l'académique et le profane, Victor Hugo, le jazz. Un petit peu comme on frotte l'un contre l'autre deux matières pour en faire jaillir l'étincelle d'un sens nouveau. Et c'est vrai qu'Udi Berti très souvent va faire ça, hein, c'est-à-dire qu'il va mêler la chose profane à la chose académique. Et puis il va par exemple aussi être très rigoureux dans la façon dont il versifie, hein, très rigoureux, hein, c'est on peut vérifier, la versification est totale. Et d'ailleurs c'est ce que Claude Nougaro me disait souvent, il me disait « achète un traité de versification ». Et il y a cet attachement à la forme à l'intérieur de laquelle on va être très libre. Et quand Jaco Di Berti dit « Victor Hugo aimait le jazz », c'est pas par hasard, je dirais. C'est une affirmation qui, pour moi, va très loin. Hein. C'est une affirmation qui en réalité, et qu'on peut faire aller très loin. Bon, d'abord, il faut se mettre un petit peu d'accord sur certains thèmes, mais en particulier sur qu'est-ce que le jazz, hein. Qu'est-ce que le jazz et qu'est-ce qu'il n'est pas. Alors, au risque d'éveiller la polémique, je dirais que le jazz n'est pas la musique des Noirs américains. Parce que d'une part, les Noirs américains, ça n'existe pas. Ce sont des métis, hein, bien que ce soit refusé hein, par la société. Mais la plupart des Noirs américains ont du sang européen et asiatique, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque les gens se sont aimés, se sont engendrés, etc. Donc, les Noirs américains, c'est une vue un petit peu raciste, hein, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est pas. Et puis, le jazz lui-même n'est pas la musique des Noirs américains, parce que justement, le jazz, c'est la séduction hein, d'une musique d'origine africaine, sans doute, avec des musiques d'origine européenne, que ce soit des musiques folkloriques, irlandaises, écossaises, italiennes, etc., voire musique érudite. Et de cette séduction ont résulté, bien sûr, des épousailles. Et le jazz est le fruit de ces épousailles. C'est donc une musique qui célèbre, qui honore et qui symbolise la fécondité du métissage, qui est quelque chose avec lequel, généralement, les sociétés ont beaucoup de mal. On le voit aujourd'hui. Hein, bon. Et je dirais donc qu'il faut du jazz, voilà, la musique métisse par excellence, et qui en montre hein, tout l'apport. Hein. Et donc, ce qui est très intéressant dans l'histoire du jazz, c'est aussi tous ces croisements qui ont eu lieu, Stravinsky, Shostakovich, hein, qui a fait aussi des partitions jazz, Nadia Boulanger, qui était donc la professeure de Quincy Jones, de Stravinsky, de Gershwin, que j'ai eu la chance de côtoyer. Et puis, par exemple, enfin, juste comme ça, pour donner des petits exemples, Bill Evans, ce formidable pianiste, qui était un adorateur, si je puis dire, de Lily Boulanger, la sœur de Nadia, et qu'il portait au nu, hein, Bill Evans. Hein. Donc voilà, tous ces croisements, tous ces métissages font le jazz. Donc voilà, c'est une musique ouverte, une musique qui avance, qui se métisse, hein, et qui par conséquent tire son énergie profonde de cela. Alors, je dirais, bon, pour aller un petit peu vite, ce qui caractérise le jazz, et ce par quoi on le caractérise souvent, c'est le rythme. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Jeannette, c'est ce qu'on appelle le swing, c'est-à-dire une certaine sensualité du rythme, une façon de vivre la pulsation, une façon à la fois organique, vitale, sensuelle de vivre la pulsation, et qui appelle une forme de danse à la fois intérieure et extérieure. Hein. Et moi, il me semble, et c'est beaucoup Claude Nougaro qui m'a beaucoup révélé ça, mais il me semble qu'il y a dans une partie de la poésie, il y a ça déjà, hein, il y a cette rythmique interne qui appelle et qui swing, hein, qui balance. Hein, parce que, on rappelait tout à l'heure que swinger, c'est balancer, et Duke Ellington disait « It don't mean a thing if you ain't got that swing hein, ». Ça ne veut rien dire si vous n'avez pas ce swing, le swing, c'est-à-dire cette chose qui balance, qui danse et qui est là une des bases du jazz. Et d'une certaine façon, on peut dire que Hugo et Odie Berti swing, c'est-à-dire qu'il y a ce balancement, hein, qu'il y a cette rythmique. Alors, je voudrais dire, je suis dans un colloque, mais c'est aussi un anticolloque, hein, n'est-ce pas bien, hein. Donc, je vais dire « je », parce qu'en fait, on ne doit pas dire « je », mais je vais le dire quand même. Je vis entre la France et le Brésil. Et donc, à un moment donné, il y a quelques années de ça, les professeurs de français du Brésil voulaient que je réalise pour leur congrès annuel un CD spécial. Voilà. Et ils m'ont dit, voilà, la mission, si vous l'acceptez, serait de nous donner de la littérature française qui swing. Parce qu'on est au Brésil, et on a écouté, bon, ils n'avaient pas tout écouté, hein, mais on a écouté ça et là, des poèmes français mis en musique par des chanteurs, et c'est très beau, c'est très joli, etc., mais il manque quelque chose, quoi. Il manque un rythme profond, quelque chose qui pulse, quoi. Bon, alors, bon, c'était ma mission, et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé, tout de suite, à deux écrivains, Victor Hugo et Jacques Odie Berti. Alors, voilà, je vais vous montrer, ça, comme ça, hein, j'ai donc fait un CD qui s'intitule d'ailleurs « Tam Tam les mots », bon, où j'ai aussi fait appel à Rimbaud, à Paul Valéry, à Blaise Sandrard, à Aimé Césaire, bon, Aimé Césaire, c'était un peu évident, etc. Bon.
Moins pour Valérie.
Comment ?
Moins pour Valérie.
Oui, Valérie, oui, non, alors Valérie, il y a ça aussi, c'est incroyable d'ailleurs. Ouais, enfin ouais. Bon. Alors, pas toujours, mais il y a aussi ça. Hein. Et donc, voilà. Et l'idée, voilà, c'était un petit peu de sentir ça. Et c'est vrai qu'il y a deux textes pour lesquels moi j'avais senti ça depuis longtemps. Et je voudrais vous montrer ça. Le premier texte, c'est La chanson des pirates de. Victor Hugo, dont d'ailleurs, qui a été mis en musique avant par Hector Berlioz, et qui disait, dans une lettre, « Avez-vous lu les orientales de Victor Hugo ? Il y a des sublimités. J'ai fait sa chanson de pirate avec accompagnement de tempête. C'est de la musique d'écumeur de mer, de forban, de brigand, de flibustier à voix rauque et sauvage. » Alors, bon... Il y avait un petit peu un choix, et d'ailleurs j'ai fait le même choix pour les deux textes, c'était de trouver une mélodie là-dessus, hein, ou alors de ne faire sonner le texte qu'avec la percussion pour en montrer le rythme. Alors, je vous montre, on ne va pas tout passer, mais je vous montre simplement ce que ça peut donner pour Victor Hugo. Alors, voilà, moi j'ai travaillé, si vous voulez, avec mon percussionniste, hein, je lui ai un peu lu le texte et lui ai demandé... ce que ça lui inspirait. Bon, voilà, j'avais mon idée. Hein. Pour moi, déjà, c'est quelque chose qui remue profondément d'une rythmique. Hein. Et voilà, comment ça... Alors, d'abord, je vous montre le texte. Hein. Alors, c'est comme ça. Il faut appuyer là-dessus, c'est ça ?
Il faut cliquer, ouais.
Très bien. Voilà. Alors,
ah. Il va juste fermer.
Merci. Alors, voilà. Nous emmenions en esclavage sans chrétiens pêcheurs de corail. Nous recrutions pour le sérail dans tous les moutiers du rivage. En mer, les hardis écumeurs. Nous allions de Fès à Catane, dans la galère capitane. Nous étions 80 rameurs. Alors, voilà, après, ça va, cette phrase, nous étions dans la galère capitane, nous étions 80 rameurs, va revenir comme le refrain de la chanson. Hein. Et, alors, oui, c'est ça. Alors, la chanson en question, qui est, si on veut, une chanson, et pas forcément exactement une chanson au sens où on l'entend, non, va alterner entre description et puis dialogue. Hein, il y a en fait un aspect très cinéma, parce que Victor Hugo aimait le jazz, mais il aimait le cinéma aussi. D'ailleurs, le cinéma lui a bien rendu. Hein. Bon, donc, la belle fille, il faut vous taire, il faut nous suivre, il fait bon vent. Ce n'est que changer de couvent, parce qu'en réalité, les pirates sont des pirates barbaresques qui cherchent à attraper des jeunes nonnes pour le harem du sultan. Voilà. Et donc là, comme vous le voyez sur le texte, il tombe sur une jeune nonne qui est en train de dormir sous un platane. Bon. Le harem vaut le monastère, sa hôtesse aime les primeurs, nous vous ferons mahométane. Mais déjà, bon, là, je trouve ça extraordinaire au niveau verbal, ça swing formidablement, si vous voulez, et moi, ça m'a inspiré ceci. Alors, attendez, excusez-moi, parce que comment on fait pour... Oui, c'est ça. Allez-y, Florent, c'est moi je suis.
Il faut aller dans un
ah oui, c'est ça.
Dans un autre dossier. Non, ça, j'arrive
vraiment. C'est ça, voilà. Très bien.
Et là, tu reviens encore. En arrière.
Ouais, c'est ça.
C'est dans le bureau, c'est dans le...
Non, non, c'est dans le document. C'est
oui, oui.
En fait, c'est sur une clé USB, pardon.
Ah, c'est sur la clé.
Ah, bah, c'est celle-là, ouais, voilà.
Voilà.
Et en bas.
Et là, tu descends.
Excusez-nous, hein, c'est...
Alors, peut-être avant. Ah,
c'est un peu spécialisé.
Ça s'appelle comment ?
Il faut que tu remontes dans le dossier.
Voilà, ça s'appelle voilà. La musique.
Excusez-moi. Voilà. Musique, exactement.
Dans ce virage, voilà. C'est ça, c'est ça.
Ça.
Voilà, ouais, c'est vrai.
Là, normalement, il y a le son, il y a les barres, le
emmenions en esclavage sans chrétiens, pêcheurs de corail. Nous recrutions pour le sérail dans tous les moutiers du rivage. En mer, les hardis écumeurs, nous allions de Fès à Catane, dans la galère capitane, nous étions 80 rameurs. À nos yeux s'offre tout d'abord une fille du monastère. Près des flots sourdes à leur rumeur, elle dormait sous un platane. Dans la galère capitale, nous étions 80 rameurs. La belle fille couvent, le harem pour le monastère. Sa hôtesse aime les primeurs. Nous vous ferons Barbécane. Dans la galère, capitaine, je vous écris.
Voilà. Voilà, donc voilà, vous voyez un peu l'idée, hein. Et alors, pour ce qui est de Oliberti, alors, c'est ça, voilà. Pour revenir au texte.
Le texte doit être...
Oui, c'est ça.
C'est très bien.
Oui, ici, oh. Juste après ça.
C'est alors,
juste des sens. Ouais.
Pardon. Oui, non, mais je vois où c'est juste pas facile avec le.
Ici, là, je crois.
Le pâte.
Dessous, au bec.
Voilà, très bien.
C'est le monument.
C'est quel texte ?
Du Tractat qui n'est pas dans.
Filature ?
Voilà.
Les filatures.
Très bien. Voilà, alors, pour Oliberti, c'était un petit peu la même chose. Enfin, moi, je les ai rapprochés tout de suite, quoique le sujet soit. Il n'y a rien à voir. Il s'agit d'un texte qui est dans Ange aux entrailles, donc Ange aux entrailles, c'est un texte de la fin. Hein. Paulhan lui avait demandé d'être plus accessible, et donc Oliberti a fait certains textes qui sont vraiment très, très accessibles pour le coup, hein, et qui marchent bien. Et donc, les filatures, en fait, il s'agit du monologue d'une servante d'auberge qui lave le linge dans la cour et qui se parle à elle-même, quoi. Hein. Et qui raconte, enfin, là, commente sa vie, quoi. Hein. Et là aussi, j'ai tout de suite perçu, je veux dire, une extraordinaire rythmique, quoi. Hein. Et là aussi, j'ai voulu un peu faire le même traitement, c'est-à-dire... uniquement des percussions. Dans le reste du disque, il y a des mélodies. Mais là, c'est aussi, ça me paraît être justifié, enfin ça me paraissait intéressant, si vous voulez, de travailler uniquement avec de la percussion, parce que alors là, c'est peut-être encore plus évident que chez Hugo, bien que chez Hugo, on sentait cette rumeur. Hein. Donc mes mains plus douces que des bouches, alors ça, c'est une introduction, pour moi je le sens comme ça, mes mains marchent comme des mouches sur le ventre des inconnus. Vous désapprouvez mes doigts nus, vous ne les embrassez plus. Mes doigts, veuillez les avoir vus, sachez ce qu'ils sont devenus. Presque jusqu'à l'os, ils sont nus. Parce que, en fait, bon, ça fait allusion à tout un tas de choses, comme souvent chez Oliberti. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait allusion au fait que les servantes d'auberge avaient autrefois la réputation d'avoir la cuisse leste. Hein. Tout se mélange dans sa tête quand elle lave le linge. Hein, et elle pense à ça et à d'autres choses aussi. Hein. Et après vient ce passage. Je gratte, je frotte, je rince. Je lime cette peau si mince. Je mire ma face qui grince dans les tricots que chaque jour je lave dans la cour. Et j'ai choisi, si vous voulez, d'utiliser ça comme étant le refrain de... cette chanson ou de ce texte mis en musique, quoi. Comme s'il fallait que je lave non seulement de mes détours l'ombre lointaine qui me brave, mais moi la bonne, moi l'esclave, la peau qui sent, la peau qui bave, la peau du fifre et des tambours. Machine à laver, lave, lave, lave la toile confila. Et vous voyez, là, enfin, la langue française, généralement académique, a une mauvaise relation à la répétition. Ça se fait pas, hein, de répéter surtout trois fois de suite comme ça le même mot. Lave, lave, lave. Et on voit bien, enfin pour moi, ça, c'est évident tout de suite que c'est un procédé, entre guillemets, à une manière rythmique. Hein, et que ça appelle, je veux dire, hein, la mise en voix rythmique, d'une certaine façon. Hein. Je dirais, c'est presque, enfin on pourrait dire, aujourd'hui c'est presque comme du rap, quoi. Hein. Machine à laver, lave, lave, lave la toile confila, pour que notre chair y coula, comme dans la mer, une épave. Voilà. Et ensuite, battre dans ma tête à grands coups, je les entends les filatures, tissant les draps pour les époux. Alors, vous voyez, tout se mélange un peu dans sa tête, à la fois la réputation hein, de la servante qui, voilà, qui va un peu avec tous les hommes, mais aussi l'histoire des filatures qui tissent les draps, vous voyez. Bon, voilà, on sent que c'est un peu une pensée qui va un petit peu d'un sujet à l'autre, quoi, hein. Les jupons avec ou sans trou, le traversin des aventures, les bas désormais sans couture, les cols de rechef du ruban, les slips qui tiennent bien les flancs et dont jamais trop l'on ne change, linge, fleuve gacé qui sort des grandes usines du Nord et que je dois vite plus fort laver pour éblouir l'archange. Alors là, il faut qu'on passe sur la musique.
Oui.
Bonne assistante. Là. J'ai gâté. Alors c'est celle-là, c'est ça.
Mes mains, plus douces que du jus,
sur leur tibia.
Et on a mis plus fort, mais.
Au même endroit.
Vous désapprouvez mes doigts nus, vous ne les embrasserez pas. Là, veuillez les avoir vus. Sachez ce qu'ils sont devenus. Presque jusqu'à là. Je ligne cette fausse image. Je mire ma face qui grimpe. Dans les petites que chaque jour je lave dans le feu. Comme s'il fallait que je lave. Non seulement de mes détours, l'ombre lointaine qui me brave. Mais moi la bonne, moi l'esclave. La peau qui sent, la peau qui bat. La peau du fil fait des tangos, machine à laver, là, là. Lave la toile qu'on fila pour que notre chair y coula comme dans la mer. N'est pas. Battre dans ma tête à grands coups, je les entends les filatures. Qui sont les draps pour les époux, les jupons avec le sang trou, le traversin des aventures. N'est pas. Désormais sans couture. Les cols de rechef durs et blancs, les slips. Et dont jamais plus l'on ne change comme la neige. Fleuve glacé qui sort des grandes usines du Nord et que je dois vite plus fort laver pour éblouir l'archange.
Voilà. Alors, voilà, vous voyez, c'est, pour moi, c'est vraiment une démarche, je dirais, poétique qui nous approche énormément du jazz, en l'occurrence. D'abord par cette utilisation des mots comme des percussions verbales, quoi, hein. Et où on est un peu à la limite, un petit peu de ce que vous disiez, vous, dans le domaine graphique, mais on est un peu à la limite, hein, entre la poésie et la musique, hein, le son des mots, les mots pris dans leur dimension sonore, hein, les mots pris dans leur dimension percussive, et qui appelle pour moi cette mise en voix, que souvent d'ailleurs Audiberti suggère, appelle, hein, et qu'il va trouver, d'ailleurs réaliser d'une certaine façon dans ce que fait Nougaro. Hein. C'est-à-dire que, véritablement, là, je dirais la parole écrite, hein, prend un sens nouveau par le fait que on l'a dit, hein, on l'a dit et on l'a, comme disait le père Jousse, hein, on la mange. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, voilà. Et pour moi, si vous voulez, cette façon de faire, hein, d'Audiberti et de Hugo, a beaucoup à voir avec ça, et a beaucoup à voir avec ce jeu. Hein, avec la percussion, avec les rythmes. Alors, on a un exemple de ça, bon, avec cette poésie qu'on a étudiée à l'école, que vous connaissez très bien, qui s'appelle les djinns, vous savez. Et on joue avec... Alors là, il y a un jeu, mais auquel souvent Hugo va se livrer, hein, qui est un jeu avec la longueur des vers. Hein. Donc, des vers de 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pieds, puis après, on descend à nouveau, hein, 8, 7, 6, 5, 2. Bon, vous connaissez cette poésie. Donc, mur, ville et port, asile, demeure, mer grise ou brise, la brise tout dort. Évidemment, tout ça, c'est du rythme, enfin, c'est de la percussion, c'est du mouvement. Dans la plaine, naît un bruit, c'est la laine de la nuit, elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot d'un nain qui saute, c'est le galop, il fuit, s'élance, puis en cadence, sur un pied danse, etc. Voilà, donc, ça induit aussi pour moi une forme de transe. Hein. Et cette forme de transe, on la retrouve aussi parfois dans la prose aussi. Hein. Dans la prose aussi bien, je dirais, audibertienne que hugolienne. Alors, un jeu à la fois, souvent qui procède par énumération, hein, qui procède par... par une énumération qui va crescendo, hein, comme quand, par exemple dans un texte qui est peut-être moins connu d'Hugo et que j'aime beaucoup, qui est L'homme qui rit, quand par exemple Ursus fait donc la aux gentils qui m'écoutaient, si l'on vous dit que quiconque flaire l'herbe valériane, il lui naît un lézard dans le cerveau, que dans la putréfaction le bœuf se change en abeille et le cheval en frelon, que l'homme pèse plus mort que vivant, que le sang du bouc dissout l'émeraude, qu'une chenille, une mouche et une araignée aperçues sur le même arbre annoncent la famine, la guerre et la peste, qu'on guérit le mal caduc au moyen d'un ver qu'on trouve dans la tête du chevreuil, n'en croyez rien, ce sont des erreurs. Mais voici des vérités. La peau de veau marin garantit du tonnerre, le crapaud se nourrit de terre, ce qui lui fait venir une pierre dans la tête, la rose de Jéricho fleurit la veille de Noël, les serpents ne peuvent supporter l'ombre du frêne, l'éléphant n'a point de jointure et est forcé de dormir debout contre un arbre, faites couver par un crapaud un œuf de coq, vous aurez un scorpion qui vous fera une salamandre. Un aveugle recouvre la vue en mettant une main sur le côté gauche de l'autel et l'autre main sur ses yeux. La virginité n'exclut pas la maternité. Pour moi, déjà, on est dans une forme, si vous voulez, de jazz verbal, on peut appeler ça comme on veut, mais déjà dans une forme de mouvement rythmique, hein, qui appelle la danse. Alors, si vous voulez, pour moi, ce qui lie aussi profondément Hugo et Audiberti dans cet ordre de choses, c'est que ce sont en réalité deux écrivains verbomoteurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette proposition, hein, de deux personnes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qui étaient Marcel Jousse et André Spire. Alors, Marcel Jousse, c'était un jésuite, hein, professeur à la Sorbonne, nonobstant, et qui a travaillé beaucoup sur la transmission de l'écriture sainte. Et ce que disait Marcel Jousse, en substance, c'est qu'on ne peut pas accéder au sens de l'écriture si on ne se rend pas compte que c'était d'abord des textes oraux qui étaient faits pour être dits et pour ce qu'il dit, pour être mangés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle de la mendication de la parole. Et qu'en fait, on n'accède qu'à une partie du sens si seulement on les lit de façon, alors lui il a une expression pour ça, de façon abstraite, de façon algébrosée. Alors, la façon algébrosée, c'est une façon, je dirais, on pourrait dire purement cérébrale. Hein, voilà. Le corps ne participe pas. Alors, c'est très utile pour un tas de choses, hein, pour l'administration, pour la bureaucratie, pour les mathématiques, bon, c'est très utile. Sauf que, si le corps n'est pas impliqué, disait Jousse, il y a une partie du sens qui va échapper. Et c'est très très intéressant. Et donc, il appliquait ça, et il disait, notre enseignement me fait penser à des gens qui seraient invités à dîner, et qui ne ferait que regarder les autres manger. Hein. Et pour lui, si vous voulez, pour l'apprentissage de la langue, se passe par le fait de goûter la langue, hein, de la goûter, et c'est ce que va prolonger André Spire dans son livre qui s'appelle « Plaisir poétique et plaisir musculaire », où il va montrer, et démontrer enfin, hein, qu'en réalité, la poésie procure une forme de plaisir sensuel dans sa diction, hein. Et que ce plaisir, il faut l'éprouver. Ça ne sert à rien de l'expliquer. Il faut l'éprouver. Hein. Et il y a des phrases, d'ailleurs, qui sont très belles et qui, à mon avis, éclairent beaucoup, d'une certaine façon, le travail d'Hugo et d'Audiberti. André Spire dit, par exemple, « Le poète d'aujourd'hui retrouve la nature originelle du compositeur de style oral, rythmant dansant sa pensée avec son corps, avec tous les mouvements de son gosier, de sa bouche articulatrice. Alors là, il cite Jousse. Nous sommes aux sources de la création du style. À ses profondeurs, le style, c'est l'homme tout entier. Dansant et balançant, selon les lois vivantes et logiques du composé humain fait de chair et d'esprit. Refaisant en quelque sorte à rebours le chemin de l'évolution de sa langue maternelle, il redevient gesticulateur, mime, verbomoteur. Là, il pense évidemment à l'apprentissage par le nouveau-né de la parole. On le voit qui se frotte les mains, qui se promène de long en large, il bat la mesure, il grommelle quelque chose entre ses dents. Et peu à peu, sous cette impulsion régulière, entre les deux rôles de l'imagination et du désir, le flot des paroles et des idées commence à jaillir. Mais même quand le flot des paroles cesse de jaillir, quand le poète s'assied, s'étend dans un fauteuil ou sur un sofa, quand après avoir tourné longtemps autour des mots, il les confie à l'écriture, il parle encore. Parole intérieure, non pas simplement mentale, il articule ses mots, les souffle de manière assez faible pour qu'un observateur ne puisse entendre aucun son, ne voit qu'un léger frémissement des lèvres d'ascension de la saillie du larynx, esquisse motrice. Et si le poète n'en a pas toujours une conscience claire, la résistance que certains mots opposent à son choix prouve qu'il a la perception plus ou moins confuse de ses mouvements réduits et qu'il les sent. Ici, tout est soliloque, monologue, monologue intérieur qui se fait aux abîmes de l'être, à la jonction du biologique et du mental, là où toutes images évanouies, le mouvement reste, où l'homme ne voit plus, n'entend plus, mais se parle, balbutie son poème. Alors, voilà, moi, j'ai souvent, on en a parlé, vous en avez parlé aussi, le sentiment que aussi bien Hugo qu'Audiberti, ils appellent la mise en voix, la mise en action du poème. Et puis ils s'interrogent aussi effectivement sur ce que peut et ne peut pas le poème. Hein. Comme disait Audiberti, faire se lever des moissons plus abondantes. Hein. Et voilà. Et dans ce sens, si vous voulez, je sens que Audiberti et Hugo se collent un peu, hein, se confrontent aux limites un peu, hein, du poème et aux limites du livre. Hein, Audiberti, il y a un moment donné ce poème qui se sent un peu à l'étroit entre les quatre murs d'un livre. Je voudrais, pour que le temps nous est compté, vous montrer, si vous voulez, deux textes dans lesquels je pense que Hugo et Audiberti poussent loin cette logique, j'irais jazzistique, hein, ce jeu avec la langue maternelle, qui est présent chez Hugo. Hein, parce que c'est vrai qu'Hugo, ça dépend des moments, mais il y a des moments où il pousse un peu loin, hein, la façon dont il travaille le vers, la rime. Hein. Parfois, bon, on le voit par exemple quand il mélange le dialogue et la description, quand il provoque des brisures de rythme, quand il coupe une phrase à un moment complètement inattendu pour créer la rime, hein, quand il crée la rime avec des mots brefs, avec des interjections. Bon, déjà, on sent qu'il subvertit un peu l'idiome, hein, et il annonce en ce sens la poésie moderne. Hein. Parfois, ça reste très classique, et d'ailleurs, il excelle, hein, cette forme très classique. Et puis parfois aussi, ça va un peu plus loin, ça commence à bouger. Et ça me fait beaucoup penser au jazz aussi, parce que bon, le jazz, c'est une musique que j'accompagne depuis très longtemps. Et c'est le jazz, c'est beaucoup fondé sur le partage. Je disais, c'est le métissage, mais c'est le partage. Et c'est le partage, je dirais, entre les musiciens. Vous savez, quand on se retrouve entre musiciens de jazz, on improvise ensemble. Hein. Le partage fait partie intrinsèquement de la culture jazz. Hein. Et ça ne peut pas d'ailleurs marcher autrement, si vous voulez. C'est un petit peu différent, enfin, l'état d'esprit est quand même assez différent que dans d'autres styles de musique où on va chercher, par exemple, à être virtuose, à dominer, ou dans le jazz aussi. Hein. Mais cet aspect du partage est très important. Et d'autre part, le jazz est une musique qui avance tout le temps, hein, qui avance, justement qui avance en incluant d'autres choses, en absorbant d'autres choses, d'autres styles, hein, en se confrontant avec d'autres styles, y compris d'ailleurs, on le sait bien, avec la musique érudite. Mais voilà, parce que c'est ça le jazz aussi, hein. C'est un état d'esprit, hein. C'est un état d'esprit. Et donc, à la fois de créativité, d'improvisation et de partage. Et dans ce sens, si vous voulez, ça me fait beaucoup penser dans les sens à la démarche d'un Victor Hugo, qui était quand même toujours une démarche d'une générosité incroyable. D'ailleurs, c'est bien pour ça que finalement, encore aujourd'hui, Hugo nous touche. Parce que c'est quelqu'un, bon, il peut avoir eu ses excès, il peut avoir eu ses... Mais c'est quelqu'un qui est d'une générosité invraisemblable. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on a, les gens qui lisent Hugo, une relation personnelle avec lui. Finalement, on crée une relation personnelle. Et c'est un peu le cas d'Audiberti aussi. C'est-à-dire qu'Audiberti, il est plus discret. Bon, c'est aussi un tempérament. Il est moins, je dirais, à se mettre en valeur, à se porter au pinacle lui-même. Audiberti, ce n'est pas tout à fait le même tempérament. Mais ce sont quand même des écrivains d'une très grande générosité avec lesquels, finalement, on crée une relation personnelle, quoi. Et donc, si vous voulez, je voulais vous montrer, alors là, on va repasser au texte. Je voulais vous montrer deux textes, donc, si vous voulez, où, à mon avis, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, voilà, c'est ça. Texte, voilà, très bien. Parfait. Alors, c'est Fenêtre ouverte. Fenêtre ouverte.
Ah oui.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, attendez. Ça, il faudra juste un petit peu le mettre. Enfin, je crois qu'on voit déjà, hein, on voit, c'est ça.
J'arrive pas à le mettre.
Voilà, okay. Très bien, parfait. Ouais. Vous voyez, alors, ça voilà, c'est un texte d'Hugo pour moi qui est formidable et que j'associe énormément au jazz, dans ce que le jazz peut avoir de brisure rythmique, hein, de choc, d'inattendu. Bon, en fait, c'est explicite, fenêtre ouverte le matin en dormant. Et là, on est à mon avis, à la frontière du surréalisme, hein, parce qu'on est à la frontière du rêve, hein, et Hugo exprime de manière tout à fait incroyable ce qu'on peut éprouver quand on est dans le demi-sommeil, quoi. Et regardez comment il écrit. « J'entends des voix, point, l'heure à travers ma paupière. Une cloche est en branle à l'église Saint-Pierre. Cri des baigneurs, plus près, plus loin, non par ici. » Vous voyez, c'est incroyable. « Non par là. » Les oiseaux gazou, Jeanne, c'est sa petite fille, aussi l'appelle. Georges l'appelle, chant des coqs, une truelle. Vous voyez, cette façon voilà, une truelle, ça va rimer après avec raclin-toi, des chevaux passent dans la ruelle. Grincement d'une faux qui coupe le gazon. Alors, excusez-moi, là on est parti ailleurs. Voilà, très bien. Voilà. Alors, grincement d'une faux qui coupe le gazon, choc, rumeur, des couvreurs marchent sur la maison, bruit du port, sifflement des machines, chauffées, musique militaire arrivant par bouffée. C'est pas très bien, excusez-moi, c'est pas très bien réparti. Brouhaha sur le quai, voix française, merci. Bonjour, adieu, sans doute il est tard car voici. Vous voyez, cette façon, c'est incroyable, hein, c'est vraiment... voilà, on est dans de la poésie contemporaine. Hein. C'est étonnant de voir, voilà, on subvertit complètement toutes les règles là. C'est un jeu, mais c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement intéressant. Bonjour, adieu, sans doute il est tard car voici qui rime avec merci. Bon, etc. Voilà, l'eau caplote, on entend haleter un steamer, une mouche, voilà, on entend haleter un steamer, une mouche entre, souffle immense de la mer. Voilà. Alors pour moi, si vous voulez, c'est vraiment une démarche poétique qui a tout à voir avec le jazz, hein, dans le sens où vraiment on se permet, vous voyez, tous ces chocs, ces espèces de façons de tordre, hein, de subvertir l'idiome, hein, puisque de subvertir l'idiome natal, on pourrait dire, hein, parce que voilà, on est dans une dans une démarche, c'était un texte tardif, hein, c'est tiré de l'art d'être grand-père. Mais pour moi, voilà, on est dans vraiment quelque chose qui annonce, voilà, toute une autre. Excusez-moi, c'est pas très bien, c'est un peu bagoncé, c'est un peu mélangé un peu tout. Mais bon, par exemple, rouge-gorge, hein, rime avec forge, hein. Enfin, vous voyez un peu les choses. Et donc, alors, comment on fait pour
aller à la musique?
Non, pour retourner sur les textes, en fait. Alors là, on va aller sur CP, chien. Voilà. Le texte alors, qui m'a été révélé par Bernard, d'ailleurs, pas plus tard qu'à l'anticologue. Mais voilà, alors, c'était un autre exemple, là aussi, où Auliberti va aussi complètement subvertir. Hein, voilà. Douceur, douceur, je suis la douceur, je suis elle. Les chiens, quels chiens? Vos chiens, mes chiens. Vos chiens, mes chiens. Je suis la douceur pure à la gazelle. Ils ont vos chiens, mes chiens. Oui, vos chiens, quoi, mes chiens? Je suis la douceur chaude et joyeuse des houles, ces chiens. Les miens, vos chiens, eh bien, ils ont mes chiens, sablonneuses. Alors, je pense que hein, des houles, sablonneuses. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que là, on enjambe. Hein, je sais pas, c'est comme ça qu'on appelle ça, enjambement.
Ouais,
je
on saute
pas.
Même par
le. On saute. Voilà,
par
le voilà, vous voyez, tout se mêle. Vous voyez, tout se mêle, hein, d'une façon qui, moi, me fait beaucoup penser à certaines partitions de jazz. Vous voyez. Alors, on va utiliser les chiens, vos chiens, mes chiens, comme une matière de percussion, on pourrait dire, hein, comme une espèce de matière de refrain, et puis va courir un autre discours, hein, qui va s'entrelacer, hein, au discours principal. Douceur, douceur, chantons la douceur de la tare, vos chiens ont prétendu que nous ne savions rien, et du ciel, douceur de la tare, et du ciel et du bagne de la solfata, que nous ne savions rien de ce qu'ils savent bien. Vous voyez, ça fait allusion, vos chiens ont prétendu que nous ne savions rien. Vous voyez, tout se mêle, tout se... voilà, tout se... Et là, pour moi, on est voilà, à fond dans certaines démarches, oui, jazzistiques, pour moi. Enfin, voilà, au sens où, hein, de cette subversion des formes, de cette liberté de rythme, hein, voilà, qui appelle, voilà, pour moi, la poésie contemporaine, évidemment, mais avec une certaine rigueur, quoi. Hein. Et pour terminer, je vous dirais que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, comme disait, bon, ça fait un petit peu penser à ce que disait Baudelaire, hein, il y a dans le mot, dans le verbe, quelque chose de sacré. Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocateur. Alors, il y a à la fois cet aspect du plaisir, hein, de la gourmandise des mots, mais il y a aussi cet aspect sorcier aussi, hein. Comme disait Auliberti, je crois à la magie verbale. En changeant tel mot, le poète devrait pouvoir faire mûrir des moissons plus abondantes. Bon, c'est une façon de parler, mais on sent que, voilà, il disait aussi Auliberti que la poésie l'agaçait parce qu'elle n'était pas susceptible de guérir une entorse. Enfin, mais voilà, c'était aussi un appel. Je dirais à faire sortir un peu la poésie de sa niche, hein, et à je veux dire la faire agir, hein. Donc là on est dans une espèce d'élargissement, hein, de la perspective politique peut-être, mais poétique en tout cas, hein, qui touche, voilà, quelque chose d'assez sacré, hein. Alors je voulais vous citer, je veux pas qu'il y ait un malentendu là-dessus, hein. Je vais vous citer en terminant trois citations, si vous voulez. Mais on sait que, bon, quand Auliberti et Hugo utilisent ces mots, c'est dans un certain sens, hein, qui n'est pas le sens, je dirais, commun, prosaïque, qui fait appel à une dimension comme ça, hein, qui est sacrée malgré tout. Hein. Bon. Et c'est ce qui les lie aussi, hein, d'une certaine façon, assez subtilement. Alors, bon, vous savez sans doute que Hugo dit « car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu ». Bon, jusque-là, on le sait, hein, ça c'est certain. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'Auliberti va dire aussi quelque chose là où peut-être on ne l'attendait pas, c'est qu'il va dire « écrire Dieu, écrire le mot Dieu, on conçoit que la pudeur s'y puisse refuser. Mais écrire, c'est toujours écrire de Dieu. Il n'y a qu'un livre, chacun de nous y travaille. » C'est intéressant. Évidemment, bon, on n'est pas dans la religiosité primaire, on est bien d'accord. Hein. On est dans une perspective, voilà, qui ouvre, qui ne referme pas. Et moi, ça me fait penser, si vous voulez, à ce que disait Maître Eckhart, qui est un mystique rhénan du XIVe siècle, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a cette phrase qui est un peu mystérieuse, mais qui est intéressante aussi, enfin, parce que pour moi, elle fait allusion à ça, et qui dit « Toutes les créatures sont de toute éternité dites dans le Verbe divin. » Voilà. Alors, bon, je termine avec ça, peut-être que c'est un peu surprenant, pour vous dire que, voilà, moi je suis passionné par ça, c'est vrai que Nougaro, Pio Di Berti m'ont ouvert à cette dimension, je dirais, de la parole en action, de la parole en lien avec la musique aussi, de la parole musique, du verbe musique. Hein. Nougaro disait de Liberti que c'est un musicien, M-O-T, hein, et que cet artisanat, hein, il a à voir avec à la fois oui, quelque chose de sacré, de magique peut-être, hein, dès lors qu'on le met en action. Alors moi, il m'est arrivé de célébrer Di Berti et Nougaro dans ce que j'appelle des concerts littéraires, où je mélange à la fois la poésie, la musique, la chanson, la percussion. Bon, voilà, j'ai commis bon, ce CD dont je vous parlais, donc, où Paul Valéry aussi swing. Hein.
C'est plus étonnant.
Ce qui est plus étonnant, oui. C'était pas enfant de mon silence, ah, oui. Saintement, lentement placé vers le lit de ma vigilance, procède, muets et glacé. Ça, c'est Paul Valéry, qui est absolument un poète aussi extraordinaire. Bon. Bon, ensuite, il s'est beaucoup commis dans des réflexions, dans des essais, bon, qui sont intéressants. Enfin, moi, le poème, le cimetière marin, je trouve que c'est quand même un sommet. Hein. Voilà. Et puis, bon, j'ai aussi consigné dans un petit bouquin, bon, mes rencontres avec Claude Nougaro, parce que j'ai eu beaucoup de chance de le côtoyer. Hein. Il s'appelle « Je te passe les consignes », parce que Nougaro m'avait dit ça un jour. Parce que justement, on travaillait beaucoup sur cette histoire de versification, sur cette histoire de précision du mot, parce que aussi bien Nougaro que Di Berti étaient aussi des classiques d'un certain point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait cette dialectique entre une grande liberté à l'intérieur de formes très classiques. Hein. Il y avait cette tension hein, qui existe et qui justement peut créer hein, l'étincelle de la créativité et peut créer l'intérêt entre des formes finalement hein, traditionnelles, entre guillemets, qu'on va subvertir. Parce qu'effectivement, comme on disait ce matin, on le rappelait, le vers libre de ne pas être un vers, le vers libre de ne pas être un vers, c'est sympa, mais ça peut déboucher assez rapidement sur quelque chose d'assez filandreux, hein, et qui n'a pas cette rythmique justement, parce que la rythmique, elle vient aussi malgré tout d'une forme de travail hein, sur le tempo, sur la pulsation, hein, sur une forme de rigueur, quoi. Qui va faire soudain que la chose va balancer, qu'elle va commencer à bouger à cause de cette tension. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. En gros, je l'aurais. Bon, si on me lance là-dessus, demain matin.
On va peut-être.
Mais
vous arrêtez là. Merci en tout cas. Des questions, des interrogations, des réflexions.
Oui.
Ce matin, on a vu VH qui voulait dire Victor Hugo, et là, c'est P, c'est quoi?
Alors, je ne sais pas. Et toi?
Je ne sais pas.
Donc, c'est l'autre quelqu'un.
On a vaguement pensé à Charles Péguy, mais en relation avec le texte.
Oui, oui.
Il y a des énigmes encore chez Odile.
Oui, beaucoup. Il aimait bien aussi. Hein.
Oui, oui, absolument. Ouais. Oui. Alors, moi, c'est sur la musique. Di Berti, la musique, alors il était ami avec Marcel Mirouz,
oui, oui.
Qui était un musicien ami du père de Nougaro. Pas trop souvenir qu'il écoutait beaucoup de musique, donc il allait à des concerts, je crois pas.
C'est ça. Mais si tu veux, par contre, il parle souvent de tam-tam, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Il parle souvent de tam-tam et il en parle dans le monorail. Et tu vois, il y a ce passage aussi, je ne sais pas si je l'ai retrouvé, que je l'avais là, mais qui est, le tam-tam bourdonne, le tam-tam bourdonne au loin sourdement, le tam-tam bourdonne, le tam-tam bourdonne au loin sourdement, le tam-tam fredonne le chant de la guerre et de l'amant, le tam-tam résonne sous le bois épais et dormant, le tam-tam n'appartient à personne, il arrive de la patrie du démon. Et ça, c'est l'Opéra du Monde.
Ah, dans l'Opéra du Monde, d'accord.
Et c'est vrai que dans l'Opéra du Monde, d'ailleurs, c'est un peu suggéré par le titre, hein. Il y a cette idée quand même de mise en musique.
De l'art total, on en parlait
ce
matin, effectivement.
De mise en musique générale, quoi, hein, on pourrait dire. Alors ensuite, la relation personnelle, tu vois, avec la musique, je dirais de façon plus factuelle, ça je...
Alors, je crois me souvenir que c'est lui qui a découvert Bobby Lapointe.
Ah oui? Ah d'accord.
Et qu'il a demandé à François Truffaut de l'inclure dans son film.
Ah d'accord.
Et On s'est même demandé, enfin, avec François Truffaut et Audy Berthier, s'il fallait mettre un sous-titre. Parce que Bobby Lapointe n'est pas tout à fait compréhensible tout de suite. Enfin, c'est une belle découverte.
Oui, oui, c'est sûr.
L'opéra, Audy Berthier.
Justement, c'est une bonne question, je ne sais pas, je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression, mais je ne sais pas.
On a l'impression qu'il rêve de
oui,
l'opéra.
Oui, hein, c'est ça, absolument.
Je sais pas, les petits-enfants pourraient peut-être nous en dire quelque chose, Laurent, sur l'opéra.
Je crois que la seule musique classique qu'il était capable d'écouter, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec la musique, il écoutait Wagner en tant qu'écrivain.
Ah bah, oui.
Parce que Wagner écrit ses opéras. Et pour le reste, pour la musique classique, rien du tout, et je crois qu'il disait à Marcel Mirouz, qui lui présentait une petite improvisation, une petite composition, on disait, mais il y a trop de notes, Marcel.
Ça rappelle quelqu'un.
Ça sert à rien.
Ça rappelle quelqu'un, il y a trop de notes.
Oui, oui.
Et
c'était
étrange,
parce qu'il a l'air de connaître la musique.
Eh ben non, on croit. On croit.
C'est vrai.
On croit que...
Il n'est pas insensible, mais il ne l'écoute que peu.
On pense qu'il n'y est pas insensible. Moi, ma mère m'a dit il n'y comprenait rien du tout.
Très curieux.
Oui, c'est curieux. Oui, absolument.
Bon, et puis, pour donner un élément concret, il avait dit à Claude Nougaro, bon, on n'a pas la source, hein, mais il a dit à Claude Nougaro, écrivez musclé, écrivez avec vos poings.
Écrivez boxeur.
Écrivez boxeur. Ouais. Deux sources. On n'a pas la source, mais on sait qu'il l'a dit.
On cherche.
Moi, mais ça, je crois que
tu l'as.
Je crois que je l'ai.
D'accord.
Tu l'as.
Oui, parce que j'ai eu accès au carnet, si tu veux. Et le jour où il a rencontré Audy Berthier, il a écrit dans son carnet intime. Et j'ai eu accès à ça, et je l'ai photocopié.
Alors, Nougaro nous avait dit il considérait Audy Berthier comme quelqu'un qui avait pris le monde à bras-le-corps. Et Nougaro nous racontait, il a pris le monde à bras-le-corps, mais il disait maintenant, bon, aujourd'hui, s'il y a un Tarzan, Audy Berthier était un Tarzan, aujourd'hui, s'il y a un Tarzan, il chanterait, sous-entendu, je suis ce Tarzan.
Oui, c'est ça.
Il a actualisé un peu l'intervention d'un poète ou d'un chanteur dans la réalité.
Ouais.
Il a voulu l'incarner.
Et vous n'avez pas parlé de la chanson des pirates de Nougaro ?
Oui, alors Nougaro, oui. Nougaro, il a fait ça très bien d'ailleurs, hein. Il la chante.
C'est belle réussite.
Oui, c'est bien aussi. Oui. Et lui, il utilise le han des rameurs en fait, des rameurs galériens là. Mais il chante. Et moi, j'ai hésité un petit peu à faire une mélodie, mais je voulais pas en fait. Je voulais trouver cette. Dans d'autres textes, j'ai fait une mélodie, même brésilienne, on peut revenir juste pour,
sur la musique.
Ouais. Je vais juste faire écouter le début. Tu vois, comme j'étais au Brésil, bon, pour terminer, si vous voulez, je vous fais. Voilà, c'est ça, là, ici. Alors, ça, c'est un texte qui s'appelle Gare.
Reste de l'univers un exil. À 14 ans déposé, fleur au bout des 10 mois, elle a toute ma rosée, de l'aurore du bout des bois. Elle est ignorante et libre, et sa candeur la détruit. Elle a tout accent qui vibre.
Joyeux de Céleste, elle vient de ce Brésil, si doré qu'il fait du reste de l'univers un exil. Alors j'ai enregistré cette chanson au Brésil, avec des musiciens brésiliens. Et elle est tirée en fait d'un ensemble qui s'appelle Gare, Alors gare, c'est gare à la femme, bien sûr. Et là, en l'occurrence, d'ailleurs, il parle d'une réalité qui était très courante au Brésil, des jeunes filles très jeunes, 15 ans, 14 ans, je crois, il y a 14 ans épousées et veuves au bout de 10 mois. Et alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que juste pour l'anecdote, j'ai cherché un peu, on en a parlé avec Jean-Marc, on a cherché qui pouvait être bien cette jeune personne à laquelle Hugo fait allusion. Et on a trouvé à la Bibliothèque nationale un mémoire d'un diplomate qui lui aussi est brésilien, qui cherche à savoir si, parce qu'il aurait bien aimé que Victor Hugo ait eu une amante brésilienne. Évidemment, ça lui aurait fait très plaisir. Mais on ne sait pas. Ça reste très mystérieux. Il a peut-être rencontré cette jeune femme. Mais la réalité qu'il décrit, ces jeunes femmes qu'on marie très jeunes à un riche propriétaire, etc., ça, c'est tout à fait vrai. Et puis aussi, ce qu'il détaille ensuite dans le texte, de cette sensualité un peu insouciante, d'une femme qui est à la fois très sensuelle et insouciante, mais qui, dans le fond, est triste. Bon, bien sûr. Tout ça, c'est très, très bien vu, quoi, hein, comme d'habitude, évidemment, chez Hugo.
Très bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment swing de Victor Hugo et d'Aude Berti. C'est à peu près la fin du colloque, sauf qu'il y a un épilogue, et ce sera donc des lectures de textes qui auront lieu dans la pièce rose. Et donc, le temps qu'on installe quelques chaises, il y a quelques livres à vendre si vous le souhaitez. Et donc, on se retrouve tout à l'heure dans environ 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, de l'autre côté. Et la visite, c'est après. Merci.